Bonjour et merci encore une fois d'être là pour le podcast Ici on jasait, une présentation de Go See You. Aujourd'hui, je reçois Benoît Gagnon qui nous a livré toutes sortes d'anecdotes hyper intéressantes et cocasses par rapport à l'amour et les relations. Benoît a été gâté aujourd'hui par les boutiques Lavue.ca, Firebonds et Milly Bijoux. Bonne écoute! Bonjour Benoît.
Hey, merci pour l'invitation, je suis content d'être là.
Merci tellement d'avoir pris du temps pour être ici aujourd'hui, j'apprécie.
Ben tu m'as vu, t'es une fille de Québec, je suis un gars de Québec, je peux pas dire non.
Comme moi, t'adore faire la route aussi.
Exactement.
On en parlait avant d'entrer. Puis Benoît qui est partout, mon Dieu, tu travailles à la radio présentement.
Ouais.
T'es ambassadeur pour le Club des petits déjeuners.
Hey, depuis, on se mêle toujours, mais on pense que c'est 23 ou 24 ans cette année. Que je suis avec le club. Ça fait plusieurs années. Ouais. Je me rappelle, Daniel Germain est arrivé sur un plateau de télé. Je pense que c'était à Salut Bonjour dans le temps. On a connecté. J'aimais l'idée, j'aimais le concept de nourrir les enfants le matin. Puis là, tu fais comme, OK, mais c'est ailleurs. Tu sais, les enfants au Québec ont pas besoin de manger le matin. Ils ont des familles qui s'occupent. Non, c'était pas ça. Mm-hmm. Et encore aujourd'hui, en 2021, il y a une demande très, très forte. Il y a environ 600 écoles actuellement qui attendent pour avoir une réponse à savoir si le club peut s'installer chez eux, s'ils sont qualifiés, s'ils sont assez pauvres, entre guillemets. Dans un quartier où la demande est à... Il y a comme 600 écoles.
Sans compter toutes celles qui sont desservies présentement.
Exactement. Ah! Fait que c'est impressionnant. Puis au Canada, c'est 2 millions d'enfants dont le club s'occupe. C'est beaucoup de monde. C'est une grosse organisation. Donc, plusieurs années plus tard, ouais, je suis encore avec le club des petits déjeuners. On a fait un truc l'autre jour, puis on a amassé 71 000 $ en pleine pandémie. On était super contents. Tout le monde se disait, écoute, si on a 30 000 $ ça va être la folie furieuse, on va être contents. Mais à plus de 70 000 $ on était super excités. Les gens du club, il y en a qui pleuraient, qui avaient les yeux pleins d'eau. Parce que c'est des gens qui sont des passionnés, puis qui aiment les enfants, puis qui veulent qu'ils réussissent, puis qui veulent qu'ils aient les outils nécessaires pour réussir aussi. Alors, de voir qu'encore, en temps de pandémie comme ça, les gens sont encore aussi et autant généreux, je trouve ça extraordinaire.
Wow, ça doit être le fun de... Ouais. Très valorisant, en fait, d'être... ambassadeur d'une cause aussi, tu sais, qui fait une réelle différence dans la vie.
Puis t'es une maman, toi, puis t'es allée à l'école, fait que tu peux comprendre un peu tout ça, puis pour les enfants aussi, quand moi, je suis allé comme bénévole le matin dans des écoles servir des déjeuners, puis de voir les yeux des enfants quand ils arrivent le matin. Puis moi j'étais un peu snoro parce que souvent, je m'organise pour être là soit le matin des gaufres ou des crêpes. Pourquoi? Parce qu'il y a du sirop d'érable et je me mets préposé au sirop d'érable. Donc, quand ils arrivent devant moi, les enfants, écoute, déjà, sont excités. Ils sont comme, OK, let's go. Et je me rappelle, il y a une histoire, il y a plusieurs années, il y avait un petit garçon, un petit black sodo, beau comme un cœur, mais magnifique. Et les bénévoles m'avaient dit, tu vois, lui, il est difficile d'approche, il parle pas beaucoup. Et là, je leur avais dit, mettez-moi pas au défi, je vais essayer de le faire rire aujourd'hui. Alors, il arrive pour son premier service parce qu'ils ont le droit à deux services. Il arrive à son premier service et je lui mets un petit peu de sirop d'érable. Puis il me regarde, je lui dis, ben non, tu me niaises, tu vas m'en mettre plus que ça. Puis là, j'en mets encore une petite goutte, puis il me regarde. Puis tu sais, il sourit pas vraiment, mais presque. Puis il s'en va. Fait que je regarde les bénévoles, puis on fait, oh, t'as failli l'avoir. Mais je dis, attendez, il va revenir, c'est sûr et certain. Puis là, je le vois manger à distance son déjeuner. C'est des gaufres, il me semble, ce matin-là. Puis là, il fait le tour, puis il revient. Puis là, il se place pour son deuxième service. Donc, il a le droit à une autre gaufre. Et là, il arrive pour moi, pour le sirop. Et là, je prends la bouteille de sirop d'érable comme ça, puis je la mets devant lui, puis je regarde, je fais, sers-toi. Puis là, il me regarde dans son œil, il fait comme, ben non, c'est le plus beau matin de ma vie. Et là, il s'en met, là, mais il se gâte. Puis il dépose la bouteille, je reprends la bouteille, puis j'y en rajoute. Il me fait un immense sourire avec ses dents blanches. Puis je me suis reviré de bord, puis les deux dames des bénévoles qui sont là, elles, à tous les matins, avaient les yeux pleins d'eau, parce qu'en fait, comme, tu viens de faire un moment extraordinaire à cet enfant-là aujourd'hui. Mais. C'est juste parce que c'est le sirop d'érable. J'y suis pour rien. Oh. C'est la faute du sirop. Mais c'est ça. Tu sais, le club, c'est ça le matin. C'est de donner la chance à des enfants d'avoir le ventre plein, être concentré en classe, avoir des chances de réussite que tous les autres enfants. Et c'est le fun parce qu'avec le club qui dure depuis tellement d'années maintenant, aujourd'hui, quand on fait des tournois de golf, des conférences, des choses comme ça, il y a des gars, des filles qui viennent, qui ont maintenant 30, 35 ans, qui, dans le temps, étaient des petits culs en classe puis qui n'avaient pas nécessairement de la bouffe à la maison puis qui profitaient du service du club, qui sont rendus maintenant pharmaciens, pharmaciennes, policiers, policières, pompiers. Tu comprends? Fait que de voir que ces gens-là ont réussi parce qu'ils ont eu des chances égales à tous à l'école, je trouve ça beau. Fait que cette mission-là, je l'aime beaucoup.
Wow. Puis, moi, quelque chose qui m'impressionne beaucoup chez toi, c'est tu sembles être en... très, très bon terme avec les mamans de tes enfants. Tu as réussi la séparation, si on veut.
Ouais, ouais.
Et j'aimerais... parce que j'imagine que, je veux dire, on a tous des conflits dans la vie, tout ça, mais j'imagine que votre coparentalité se fait, tu es en bon terme avec tout le monde, tu es en amour même aujourd'hui, puis tout le monde semble
En fait, tu sais, c'est une relation de couple, peu importe la durée, c'est comme un décès, il y a un deuil à faire aussi.
Oui.
Parce que dans un couple, on établit une relation d'abord en deux personnes, mais on établit et on installe des habitudes aussi, des façons de faire qui sont propres à ce couple-là. Et quand c'est plus dans ta vie, ça, il y a un manque à quelque part, tu comprends? Donc, il y a un deuil à faire de ta relation. Fait que c'est sûr que des fois, et peu importe la raison pour laquelle le couple décide de séparer, il y a une cicatrice qui sera toujours là. Est-ce qu'elle sera vive? Est-ce qu'elle va guérir rapidement? Ça, c'est à tous et chacun, comme on dit, de la vivre. De la faire passer, de l'avaler, de l'accepter, de passer à autre chose. Certains vont le faire plus rapidement, d'autres vont le faire plus lentement, puis c'est correct parce qu'on le fait à son propre rythme. Des fois, il y en a un des deux qui a été plus touché par la séparation. Il y en a des fois qui l'ont pas vu venir. T'sais. Il y a plein de raisons. Mais en bout de ligne, quand t'es parent d'enfant, il y a une chose qui va faire en sorte que tu seras uni pour la vie. C'est ce lien-là de parents envers les enfants qu'on a ensemble. Mais je pense que comme parents, on est les adultes dans cette histoire-là. Faut pas se servir des enfants dans une séparation. Faut la vivre entre adultes. Faut pas leur faire... Déjà, c'est un choc pour eux autres que de voir papa et maman qui seront plus ensemble. Mm. Donc, je pense qu'on doit se comporter en adulte, même si c'est émotif, même si on est en crise, même si on a de la peine, même si on a le goût de lancer quelque chose dans le mur, même si il y a de la rage puis de la hargne en dedans, on reste des parents d'enfants. Il faut donner un exemple là-dedans aussi.
Absolument.
Et comme je te le disais, on va être parents toute notre vie. Donc, si on est capable d'être en bon terme rapidement, on va en bénéficier comme adulte, mais les enfants vont en bénéficier en partant aussi. Donc, c'est sûr que il n'y a pas une histoire qui est pareille, mais je pense qu'avec le temps arrange les choses. Je pense qu'on a le droit de se donner le temps et de le prendre aussi pour laisser la poussière tomber des fois aussi. Puis, tu sais, de se regarder dans les yeux, faire comme, OK, garde, c'est arrivé, on sera plus ensemble comme ça, mais eux autres, ils sont là. On peut être une bonne équipe quand même, puis s'arranger, puis qu'eux autres ne souffrent pas déjà, qui ont une claque sur la gueule, qui n'ont pas demandé. On a choisi d'arrêter cette relation-là. Mais eux autres l'ont pas demandé. Est-ce qu'on peut être là ensemble pour leur bonheur, eux autres? Puis je pense que c'est possible. Autant avec Sonia qu'avec Jenna, on a réussi à réussir ça. Puis ça, je suis très, très fier de ça.
Et les trois enfants s'entendent bien?
Écoute.
Charles
a 5 ans et demi, là. Puis Mathieu va avoir 21 ans en juillet. Puis Sophie va avoir 18 en juillet. Lui, là, quand il regarde ces deux rockstars, tu comprends-tu? C'est des grands, grands, grands. Fait que son rapport frère-sœur est complètement différent que des enfants, mettons, de 5 ans qui ont un grand frère de 7. Tu comprends-tu? C'est pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes discussions, c'est pas les mêmes façons de faire, c'est pas les mêmes jokes stupides que des grands vont faire pour faire rire le petit. Tu comprends-tu? Fait que c'est un autre univers, c'est une autre énergie, c'est une autre façon de faire, puis c'est correct. Mais je le trouve chanceux de bénéficier d'avoir un écart d'âge comme ça avec eux autres. Ils vont toujours être là pour lui. Il sera toujours impressionné par eux autres. Ils seront toujours là pour le guider à travers ce qu'il va vivre. Quand il va avoir 15 puis 16 ans, ça va être des adultes qui auront peut-être des enfants. Tu comprends?
Mm-hmm.
Fait que c'est sûr que ça, la dynamique est complètement différente, mais c'est lui qui en profite le plus. En fait, ils en profitent tous. Parce que j'ai vu aussi, Mathieu et Sophie sont soudés, ils sont ensemble. Tu sais, quand on s'est séparés, leur mère et moi, Sonia, et moi...
Vous étiez ensemble depuis...
À 17 ans.
Wow.
Fait que c'est sûr qu'eux autres, quand il y avait la petite maudite, j'appelle ça la journée de la valise rouge, on avait une petite maudite valise rouge pour mettre les vêtements là-dedans, puis c'était la transition du dimanche, qui me faisait de la peine à chaque fois. Puis quand j'allais les reconduire, parce que c'était la semaine de maman, le dimanche matin, quand je me levais, j'avais le cœur dans la gorge, j'avais le cœur dans l'eau, parce que toute la journée, je savais que c'était la maudite valise rouge. On allait mettre le stock dedans, puis elle allait partir. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on a changé la façon de faire. On faisait le switch le lundi. Donc, j'allais les reconduire à l'école le lundi, passer la journée à l'école, puis aller chez maman le soir, et vice-versa la semaine d'après. Ça a comme facilité la transition entre tout ça, tu sais. Mais ça nous a aidé beaucoup quand on l'a fait comme ça. Mais cette relation-là, maintenant, que j'ai avec Sonia, puis de voir les grands aussi qui interagissent avec Charles, je trouve qu'on est tous gagnants à travers ça. Des fois, Sonia, elle vient à la maison parce qu'un des grands est à la maison, puis Charles, il sort, puis il dit « Sonia! » Puis il va vers elle, puis il parle, puis je trouve qu'on a réussi quelque chose de le fun là-dedans. Personne n'aurait gagné, je pense, si on avait gardé, mettons, les poings dans les airs, puis avoir voulu du mal de l'autre. Pis...
Non, puis j'arrive mal à comprendre comment l'aliénation parentale, parler de traiter la maman de folle ou tout ça devant l'enfant.
Malheureusement, c'est quotidien. Il y en a des histoires comme ça, il y en a plein. Je les comprends.
Le modèle,
mais je peux comprendre. Tu sais, je peux comprendre. Ça reste émotif. Il y a des raisons, des fois, qu'on ne sait pas. On ne connaît pas la vie des gens, donc c'est difficile, des fois, de juger. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait de... Si on peut diminuer ça, cette hargne-là, puis les gros mots, puis de se comporter en adulte, surtout quand les enfants sont là, ça enregistre tout un enfant. Là. Ça enregistre tout. Donc, c'est sûr que si tu cries... On a plein de situations actuellement de gars qui sont violents envers des femmes, puis ça me met en maudit à chaque fois, tu sais. Et les gars, je trouve qu'on a une responsabilité parce qu'avec nos grosses voix, avec le statut qu'on a, avec la force qu'on déploie, avec ce qu'on représente dans le rôle familial aussi, les kids, ils nous regardent. Puis ils font comme, hey boy, papa, il parle comme ça à maman, donc c'est comme ça qu'on parle à maman ou c'est comme ça qu'on parle à une femme. Non. Puis les gars, on a une responsabilité. Puis les gars qui nous écoutent actuellement, soyez responsables de ça parce que les enfants, ils enregistrent tout et ils reproduisent ce qu'on fait. Ouais. Et je trouve ça triste un peu, c'est un rôle important que celui de père, c'est un rôle important que celui de mère aussi. Puis pour revenir à ce qu'on disait tantôt, si on est capable d'avoir sur des bases intelligentes et de respect une façon de faire qui fait du sens, c'est les enfants qui vont en profiter. Puis je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, sincèrement.
Faire un team.
Oui, ouais, puis le concept d'équipe est important à tous les niveaux, mais tu as raison.
Puis tu as déjà parlé aussi d'un programme qui existait, un programme gouvernemental, justement, pour les gens qui cherchaient du soutien ou de l'aide, notamment au niveau de la médiation.
Oui, les pensions alimentaires.
Ça a explosé durant la COVID, les demandes chez les médiateurs.
On ne sépare pas tous les jours. Hein. Ça arrive une fois, des fois, ça peut arriver deux fois dans une vie. Puis quand ça arrive, des fois, on ne sait pas trop comment agir. Est-ce qu'il y a des ressources qui existent? La réponse, c'est oui. Puis effectivement, les gens du ministère de la Justice m'avaient demandé, hey, justement, ça a l'air de bien aller vos affaires chez vous. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Puis où aller voir pour chercher de l'information et tout ça. Et ils m'ont demandé de faire la promotion de quelques-uns de leurs programmes qui existent. Des programmes, certains qui sont gratuits, d'autres où il y a un avocat.
Qu'on ne
connaît pas, mais si vous allez sur le site du ministère de la Justice, c'est très facile de faire des recherches. Les programmes sont là, ils sont établis et ils sont faciles à consulter. Donc oui, il y a des programmes qui existent qui sont gratuits pour te guider dans une bonne façon de faire, ou encore, il peut y avoir des avocats qui sont mandatés beaucoup moins cher qu'un prix normal d'avocats qui gagnent toujours très bien leur vie, eux autres. Mm-hmm. Oui, ça existe. Puis pour les gens qui, des fois, se cassent la tête, allez-y, puis vous allez avoir des réponses à vos questions.
Ouais. Absolument. Puis, j'ai entendu récemment...
Qu'est-ce que t'as entendu?
Tu parlais de l'histoire de ta maman et ton papa quand ils se sont rencontrés. Puis,
Véronique, elle est fantastique, j'en ai parlé il y a pas longtemps.
Oui, exactement.
C'est vrai.
Puis, peux-tu me raconter un peu comment ça s'est fait? Parce que je trouve que ça se perd aujourd'hui.
C'est très drôle parce que ma mère est veuve depuis 18 ans maintenant. Elle n'a jamais eu d'autre chum dans sa vie parce qu'elle veut rien savoir. Dans les premières années du décès de mon père, mon frère et moi, on se disait, hey, il est mieux de pas avoir un bonhomme qui arrive ici parce que tu sais, c'était encore frais pour nous autres. Puis on voulait pas ça. Mais après quelques années encore, on se disait, ce serait le fun que maman aille quelqu'un pour aller manger au restaurant, pour peut-être faire un voyage à Paris parce qu'elle capote sur Paris depuis qu'elle est toute petite. Tu sais, de voyager une fois de temps en temps, de partir un week-end à Charlevoix avec son chum. Tu sais, fait qu'on a commencé à lui en parler, puis elle faisait, non. Moi, je veux rien savoir de ça. Je suis bien toute seule. Je veux rien savoir. Puis, elle aime pas ça quand je le dis, mais c'est ça qu'elle a dit vraiment. Elle disait, moi, je veux pas un vieux cochon qui va essayer de me pogner le cul. Non, je veux rien savoir de ça. Fait que je trouvais ça très drôle qu'une femme de son âge voit ça de cette façon-là. Mais elle a des chums de filles avec qui elle fait tout ça. Fait que pour elle, c'est pas important. Mais ma mère était célibataire, puis mon père était baseman dans un groupe à Québec. Ma mère vient de Courville, mon père est de Beauport, dans la région de Québec.
Oui.
Et mon père jouait de la base dans un petit groupe qui s'appelait les Blousons Noirs dans le temps. Et il faisait des spectacles dans les salles paroissiales, dans les sous-sols d'église. Et à un moment donné, il y a un ami à ma mère qui lui avait dit, t'as rien à faire à soir, viens avec moi ce soir, puis ça va être le fun, on va être danser, la musique est bonne. Puis le beau Camille qui joue de la basse, il est célibataire, les filles qui capotent dessus, viens le voir. Puis là, tout de suite, ma mère a fait, oh boy, un musicien, puis plein de filles qui couraillent autour, je veux rien savoir de ça. Elle est allée pareil, puis on commençait à se parler, puis on commençait à se dater un petit peu, puis à aller manger au restaurant une fois de temps en temps. Puis mon père était flic pour la Sûreté du Québec, il a été engagé. En fait, il était à l'Institut de police qui était ici à Montréal, donc parti de Québec pour venir ici à Montréal. Il redescendait à Québec une fois par semaine, puis il se voyait à ce moment-là. Sinon, durant la semaine, il lui écrivait des lettres. Il recevait des lettres, puis il a trouvé ça donc beau et donc romantique. Et quand il a fini son cours à l'Institut de police, il était engagé tout de suite par la Sûreté du Québec, basé à Chicoutimi. Mon frère et moi, on est nés là-bas parce que ma mère était allée le rejoindre. Ils se sont mariés en 70. Moi, je suis arrivé en 71. Mon frère en 74. Et après ça, on est redéménagé à Québec parce que les deux étaient de la région de Québec. Mais c'est ça leur histoire. Puis ils ont toujours été ensemble. Puis moi, l'exemple que j'avais, puis j'avais plein d'amis autour de moi dont les parents se séparaient, mais les miens ont été ensemble toute leur vie. Est-ce que c'était beau, puis s'il y avait des fleurs roses tout le temps? Non, parce que chaque couple a aussi ces moments où on est confronté à des situations, des réalités, mais ils ont toujours été ensemble, puis avec mon frère et moi, ils faisaient un bon team, puis ils étaient là pour nous autres et tout ça. Fait que moi, je suis super content de cet exemple-là que j'ai eu. Mais ils se sont rencontrés comme ça. C'est la musique qui a fait en sorte qu'ils se sont rencontrés. Et on a grandi, mon frère et moi, dans une maison où il y avait toujours de la musique le matin. C'était soit de la musique classique, c'était soit les Stones, les Beatles, les Beach Boys, de la musique classique du Pavarotti, ou la radio parlée de Québec, CHRC 80 dans le temps, avec André Arthur qui criait puis qui choquait. Et mon père était porte-parole pour la Sûreté du Québec. Fait que des fois, André Arthur se mettait à crier puis à chioler sa police. Et là, père faisait comme ça, je peux pas endurer ça. Puis il prenait le téléphone, puis il l'appelait, puis il était en onde avec lui. Puis, tu sais, moi, je le vivais à partir de la maison, puis c'était extraordinaire. Fait que je pense que mon amour, ma passion pour la musique a commencé beaucoup grâce à lui. Et moi, la musique m'a amené à la radio m'a amené à la télé. Et 31 ans plus tard, ben, je suis assis devant toi, puis je fais ça.
Quand tu m'as dit ça, j'ai... Oh,
j'avais 19 ans quand j'ai commencé. Wow. Moi, je suis allé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, puis j'ai pas fait de cégep, moi. Moi, j'ai fait 1h15 de cégep au cégep de Limoilou. Mon premier cours le matin, c'était basketball avec mon chum Philippe Lebong. Philippe mesurait 6 pieds 4, on lui donnait le ballon, puis il dunkait. Fait que mon équipe gagnait. Puis le deuxième cours, c'était poésie du 16e siècle. Après 15 minutes, je fais comme, OK, qu'est-ce que je fais ici? Je me suis levé, je suis parti. Et comme j'avais pas de cégep, j'ai commencé à travailler à Québec, en tout cas dans la région de Québec, dans un magasin de ski. Et à un moment donné, mon père me dit, c'est bien beau ça, mais faut que tu fasses de quoi à un moment donné. Et j'avais vu qu'il y avait un cours en information communication à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Et là-bas, c'est secondaire 6 et après ça, 4 années d'université. Il n'y a pas de cégep. Fait que je me suis dit, peut-être que je peux m'inscrire à l'université direct, puis ils vont peut-être me prendre. Ils m'ont accepté. Mmh. Je suis allé, c'est un programme de 4 ans et j'ai fait la moitié de la première session de la première année. Et j'ai commencé à faire de la radio à temps partiel là-bas tout de suite. Puis j'ai aimé ça, puis j'avais l'impression d'apprendre bien plus là, en étant à la station, puis je remplaçais tout le monde. Là. La personne qui faisait la météo rentrait pas, je faisais la météo, je restais à la station toute la journée. Wow. C'était une station communautaire, fait que s'il y avait un gars qui animait une émission de jazz le lundi après-midi, puis qui se pointait pas parce qu'il y avait viré une brosse la veille, mais j'étais déjà là, puis je faisais une émission de jazz. Je connaissais pas ça pantoute, mais je la faisais. Puis en soirée, il y avait une émission de heavy metal ou de punk. Le gars, il se pointait pas ou la fille. Je le remplaçais, mais je remplaçais tout le monde.
Même.
Mais non, mais j'apprenais tellement, c'était le fun, tu sais. Et j'ai appris mon métier. Fait que j'ai passé 5 ans à faire de la radio à CKUM, la foudre francophone à Moncton, au Nouveau-Brunswick, avant de revenir au Québec après.
OK.
Ouais. C'est une grosse parenthèse, hein?
C'est génial, moi.
Tu veux savoir comment mes parents se sont rencontrés?
C'est parfait.
C'est ça.
C'est parfait. Mais on parlait de séparation, puis il y a une statistique qui m'est revenue tantôt, mais là, je me suis.
Moi, je te suis. Pas, mais finalement, on jase.
Oui, c'est ça. Hein, on passe du coq à l'âne. Moi, c'est.
Il n'y a aucun problème.
Comme ça. Mais non, c'est que sur 650 couples qui étaient ensemble durant 14 ans, on disait qu'après après 14 ans, il y a 50 % des couples qui étaient séparés, 30 % des couples étaient résignés. Et 20 % seulement étaient toujours ensemble et heureux.
Ah oui, hein?
C'est fou, hein? Donc, les gens...
Moi, je suis un gars qui aime être en couple. J'aime le plaisir du couple. J'aime retrouver ma blonde. J'aime avoir des plans avec ma blonde. J'aime rien faire avec ma blonde. J'aime faire l'amour avec ma blonde. J'aime préparer le souper avec ma blonde. J'aime m'occuper des enfants, gérer des situations avec ma blonde. J'ai besoin de ça dans mon couple. J'aime arriver à la maison puis qu'elle soit là puis qu'elle ait commencé à préparer, mettons, des bouchées puis qu'on va souper dans 2 heures, mais qu'on est là. J'aime être déjà à la maison. Elle a une grosse journée, puis elle arrive, je donne un gros bec, je donne un verre de vin, je dis, va prendre ta douche, je m'occupe du souper. J'aime ça, ces moments-là aussi. Ouais. Donc, pour moi, le concept du couple, j'ai des chums, des fois, qui me parlent de leur couple et de leur blonde, je suis comme, hey, les boys, non, c'est le fun. Tu sais, des fois, tu dis, j'invite quelqu'un, puis tu dis, ah, ma blonde est sortie, il faut que je garde les enfants. Non, tu passes du temps avec tes enfants, c'est pas le même game du tout.
Exact.
Je trouve que le concept de couple et de famille, c'est super important. Moi, je suis bien là-dedans, je me reconnais là-dedans, j'ai envie de ça.
Il faut être bien qu'il y a des conflits, puis c'est normal, il y a des situations.
Mais le couple, c'est le fun en maudit. D'avoir quelqu'un, puis souvent comme moi, j'ai dans une nouvelle relation depuis 6 mois, presque 7 maintenant, puis tu sais, des fois, il y a des gens, tu entends des commentaires, puis ils font « Oh mon Dieu, c'est cheesy ». Non, c'est beau. Puis tu l'as pas, ça. C'est pour ça que tu trouves que c'est cheesy. Puis tu le juges un peu. Mais si tu avais ce bonheur-là, et je te le souhaite, peut-être que tu fais comme « Hey, crime, c'est le fun. C'est le fun, ces papillons-là dans le bas du ventre. Puis c'est le fun de penser à quelqu'un. Puis c'est le fun d'avoir hâte de voir quelqu'un. Puis c'est le fun d'avoir ce contact-là, d'avoir quelqu'un dans ses bras, puis de s'en regarder dans les yeux, puis d'être ému, d'être touché, d'être
ce
heureux.
Ça soit un plus à notre vie, pas un manque à combler, là, parce qu'il y a des dépendants affectifs qui vont courroyer, qui vont chercher à combler un manque.
Ouais.
Mais quand c'est un plus à notre vie, c'est tellement, tu sais, c'est tellement simple.
J'ai eu la chance d'être en amour 2 fois, moi, avant de l'être maintenant.
OK.
Puis tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai annoncé que j'étais avec Nathalie, il y a du monde qui disait « Ah, lui, c'est un dépendant affectif. » J'étais avec Sonia pendant 17 ans et avec Jenna pendant presque 10 ans. C'est 27 ans de ma vie, je vais avoir 50 ans. C'est plus que la moitié de ma vie. Mm. Pas si dépendant affectif que ça, je te dirais. Tu comprends-tu? J'ai aimé ça, j'ai eu des belles longues relations qui se sont terminées pour les raisons pour lesquelles elles se sont terminées. Puis c'est correct, on était rendus là.
Oui,
puis on a essayé. C'est pas comme si on avait abandonné ou abdiqué, on a essayé. Puis ça, c'est correct, ça. Mais je suis dans une nouvelle relation, là, et...
Tu t'en comblé. T'as l'air comblé, en tout cas.
Je suis tellement bien, là. Mais je suis tellement bien. Et c'est parce que je sais ce que c'est que d'aimer, grâce à mes autres relations d'avant, que je peux te confirmer que j'aime là, comme j'ai jamais aimé probablement de ma vie, parce que je suis ailleurs, parce que je suis plus vieux, parce que j'ai l'expérience d'avant.
Tu as appris, tu sais probablement plus ce que tellement. Tu veux, ce que tu veux plus, puis ce que tu...
Et c'est ce que Nathalie et moi, on se dit
quelles
souvent.
Quelles sont tes limites.
Exact. Puis c'est ce que Nathalie et moi, on se dit souvent aussi. T'sais, on le sait ce qu'on veut, puis ce qu'on veut plus. On a passé à travers des affaires, on a vécu des trucs, on a appris de ce qui s'est passé avant. Il y a plein de positifs qui est sorti de ça aussi. Il y a du négatif aussi qui est sorti de ça, ce qui est juste normal.
Oui.
Et j'espère aussi que on est capable de le prendre, puis de s'en servir, puis de l'injecter dans ce qu'on vit actuellement. Puis à date, on se trompe pas, là, les gens vont souvent dire « Ah oui, c'est tout nouveau, tout beau. » Oui, mais quand tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, le tout nouveau, tout beau est le fun. Il est effervescent, mais des fois, ça arrête rapidement, tu sais. Alors que nous, on est des adultes.
Exact.
Je vais avoir 50 ans, Nathalie vient d'avoir 47. On est là dans nos vies, tu sais.
Vous avez l'air si jeune, tous les deux.
Quand j'ai commencé à sortir avec Nat, il y a du monde qui écrivait sur les réseaux sociaux. Bon, il s'est pogné une petite jeune encore. Je dirais, ben oui, une petite jeune de 47.
Encore, parce que la maman de Charles.
Ben,
et de...
En fait, regarde bien ça. Sonia et moi, la maman de Mathieu et de Sophie, oui. On a 3 ans d'écart d'âge.
OK.
À le même âge que Nathalie. Jenna et moi, on avait 17 ans de différence d'âge. Que je voyais pas, dans une base quotidienne, pas du tout. Certaines références, des fois, sur un vieux film ou sur un groupe de musique.
Surtout, ouais.
Puis là, je lui parlais, puis elle faisait comme « Qui? » Oh, OK, là, il y a l'écart d'âge, il est là, tu sais. Mais sinon, dans notre quotidien, pas du tout, tu sais. Mais quand Nathalie et moi, on a commencé à sortir ensemble, là, il y a eu, tu sais, les sites comme Monde de Star puis Hollywood PQ qui ont mis des choses. Et malheureusement, il y a souvent des gens qui décident qu'ils vont aller commenter.
C'est facile,
parce qu'ils savent.
Derrière un clavier.
Puis ils savent tout. Ils sont tous, ils,
oui.
Ils me connaissent très, très bien.
Oui.
Puis à un moment, je me suis mis à répondre à des gens, je dis, on se connaît? Parce que les gens disent, ah, lui, il est comme ça. Je dis, on se connaît? Puis là, le monde, il se choquait. Tu peux pas croire que tu nous réponds? Ben, je dis, vous m'invitez à votre party, vous parlez de moi, fait que je vais venir certainement. T'sais, c'est de moi que vous parlez depuis tantôt. Je peux pas croire que tu nous réponds. Ben oui.
Très drôle.
En fait, je peux pas croire que tu dises ça de moi que tu ne connais pas. T'sais.
Exact.
Fait que je me suis obstiné comme ça. Puis un soir, je me suis payé à la traite parce que j'ai fait comme, man, il faut que ça arrête, ce niaisage-là. Puis en plus, c'est pas comme une nouvelle, c'est pas comme une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle où il y a un nouveau couple, 2 personnes qui s'aiment. Vous chialez sur quoi?
Faut-tu pas avoir de vie?
Non, mais je me disais, voyons donc les gens,
t'sais.
Pourquoi vous chialez? Oui. C'est une bonne nouvelle, vous devriez être content ou juste rien dire.
Exact.
Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, je suis d'accord avec ça, mais de là à prendre le temps d'aller l'écrire et tout ça. Mais il y avait beaucoup de commentaires qui disaient, bon, il s'est encore pogné une petite jeune. Hey, on a tellement ri de ça, là. Mais c'est une belle femme, ma blonde, puis elle fait pas ses 47 ans. Puis je suis fier d'elle parce qu'elle fait un métier qui est difficile. Elle est mannequin depuis toujours. Elle a gagné le concours Clin d'œil en 1991. Et depuis ce temps-là, elle n'a jamais manqué de travail. Et
wow.
D'avoir travaillé autant en demande encore aujourd'hui dans un milieu où le look est très, très important et tout ça.
Oui.
De l'avoir travaillé avec ses petites rides sur le bord de son œil, puis de l'avoir aussi souriante et aussi belle et aussi en demande, je trouve que c'est beau. Je trouve que ça envoie un message, le fun, justement, où on est beaucoup dans l'acceptation, dans la différence, dans le tu sais, on est beaucoup dans le body shaming, les gens qui sont pas fins puis qui jugent le corps des gens et tout ça.
Oui.
De la voir encore aujourd'hui évoluer dans un milieu comme celui-là, à l'âge où elle est, je trouve ça beau, je trouve ça extraordinaire. Je suis fier d'elle. Je la trouve belle, je la trouve bonne dans ce qu'elle fait. Puis de la voir travailler là-dedans encore, je suis très fier d'elle.
Tu l'admires, hein?
Beaucoup.
Puis je pense que tous les deux, en fait,
ouais,
vous semblez vous admirer, puis c'est tellement important.
Ouais,
d'admirer l'autre, puis de...
Ouais.
Ouais, de...
Je pense qu'on est dans un couple aussi, t'es là pour élever l'autre à un autre niveau, puis l'amener à se réaliser.
On devrait s'élever en amour, on devrait pas tomber en amour.
Oui,
de...
on peut tomber en amour, mais ça, c'est l'expression du départ, tu sais. Ouais. Mais c'est pas toujours facile non plus. Et des fois, malheureusement, dans certains couples, il y a de la jalousie.
Oui.
Parce qu'un réussit un peu plus que l'autre, un aime pas trop ce qu'il fait, alors que l'autre a beaucoup de plaisir. Tu comprends-tu?
Puis il y a des couples qui commencent drôlement, en fait. C'est que la personne va admirer ce que l'autre fait comme métier.
Ouais.
C'est une personne qui est rayonnante, qui dégage une belle énergie, tout ça, qui attire les gens. L'homme ou la femme va admirer ça.
Ouais.
Et une fois qu'ils sont ensemble, ça devient un irritant.
Puis
et
moi,
là,
avec la job que je fais, moi, je chauffe pas des vies, là. Je donne la météo, puis je donne des T-shirts à radio depuis 31 ans. Tu comprends-tu? Fait que c'est... Puis j'avais beaucoup
de... Tu fais sûrement un changement dans le
milieu. Je fais beaucoup
de
télé. En fait, moi, je suis conscient de ce que j'apporte, c'est-à-dire de la bonne humeur. J'ai une énergie qui est le fun. J'ai un gars qui est positif de façon naturelle. Je me lève le matin, il pleut dehors, je suis de bonne humeur pareil. Tu comprends-tu? Il y a toujours... On est chanceux de se réveiller le matin puis d'avoir une situation familiale, puis une maison, puis manger.
Exact.
Fait que moi, j'apprécie ce que j'ai. Mais en même temps, la job que je fais pour quelqu'un d'autre dans un couple, des fois, ça pourrait être difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de spotlight, d'attention, d'avantages qui viennent avec ça. Et c'est comme ça. C'est
des,
pas moi qui
l'ai. Des propositions indécentes ou des trucs comme ça.
Ça, il y en a tout le temps. Il y en a malheureusement tout le temps.
Oui.
C'est correct, ça vient avec le
fait.
Mais
en fait, ce qui est important, c'est ta réponse à toi vis-à-vis de ça. Là.
En tout le temps.
On n'a pas le contrôle sur ce que les autres.
Puis en même temps, j'ai toujours été poli par rapport à ces affaires-là, par ces demandes-là. Puis. À ces photos-là que tu reçois des fois pour absolument... Oh, hey, Delhi, t'étais à la banque dans une file d'attente. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? C'est pas des seins que je connais. Mais...
des seins non sollicités.
Ouais, mais c'est important, comme tu le disais, de s'aider à se réaliser.
Oui.
Puis, tu sais, quand Nat, elle se réveille, puis elle a un shooting pour telle compagnie, je la texte le matin. Quand on n'est pas les matins ensemble, parce qu'on n'habite pas encore ensemble, on est beaucoup ensemble, on a encore chacun nos maisons. C'est important pour moi de la texter le matin. Hey, go, j'espère que t'as bien dormi. T'es bonne, t'es belle, t'es capable. Tu vas rocker ton affaire. Tous les gens qui sont là aujourd'hui, t'as déjà travaillé avec eux autres, t'es en zone de confiance. Va leur montrer que t'es hot, là, tu sais. Puis elle est tout le temps contente que je prenne le temps de le faire. Puis dans la journée, je m'assure de la relancer, tu sais. Mm. Puis comment ça se passe? Es-tu contente? Les photos sont-tu belles? Les vêtements sont-tu beaux? Puis.
Est-ce que vous parlez de vivo ou c'est juste des textos, mettons, des journées
Moi, je suis très old school, j'aime beaucoup parler encore.
Oui, sentir l'émotion. Puis,
Ben moi, j'aime ça entendre le son de la voix de ma blonde.
Puis il peut y avoir de mauvaises interprétations.
Puis elle texte tellement lentement que c'est interminable. Fait que j'aime mieux prendre le téléphone puis l'appeler puis lui parler. Mais même quand on travaille, des fois, c'est, le texto reste plus... plus pratique, mais je trouve que c'est important de s'encourager comme ça. Puis avant de le faire, des fois, mettons que je pars de la maison, puis j'arrive en studio à Rouge, je pourrais faire l'émission du midi avec Marilyn Jonca. J'arrive, puis pling, mon téléphone, un texto, je regarde, puis elle dit « Je t'aime, bon show ». Juste ça, ma journée est faite. Parce qu'elle a pensé à moi, tu comprends? Oui. Elle a pris le temps dans sa journée à elle de faire comme « OK, mon chum commence là dans 20 minutes, je vais lui dire, tu sais, amuse-toi puis sois bon dans ce que tu fais ». C'est ça, être en couple aussi.
Oui.
Tu parlais du concept d'équipe tantôt, là, c'est ça aussi.
Même si vous habitez pas ensemble. Oui.
On est ensemble comme 4 jours par semaine à peu près, à cause de la réalité d'avoir chacun nos deux maisons, les enfants qui sont à l'école là actuellement, les horaires, ma job, je travaille beaucoup d'heures dans une semaine, fait que c'est plus difficile un petit peu, mais on passe comme 4 jours, 5 jours par semaine
ensemble. Mais c'est parfait, ça peut nous ennuyer un petit peu, puis de...
Je pourrais 7 jours par semaine, mais je le fais pas parce que je veux vraiment qu'elle s'ennuie de moi. Tu sais, je veux vraiment qu'elle... Je trouve ça super important. Non, mais je trouve que pour l'instant, c'est comme ça, puis c'est correct. Tu sais. Il y a des couples qui s'aiment beaucoup, qui se voient pas. Nous, on a la chance de passer quand même plusieurs jours par semaine ensemble.
Oui.
Et de se créer des moments le fun aussi.
Exact.
Tu sais, moi, j'ai Charles avec moi une fin de semaine sur deux tout le temps. Sinon, la semaine, il est tout le temps avec moi quelques jours durant la semaine.
OK.
Mais le week-end sur deux, où, parce que Mathieu et Sophie sont tellement rendus grands qu'ils ont leur agenda à eux autres, ils ont leur gang, ils ont chacun leur job, ils font leur affaire à eux autres. Fait que j'attends plus après eux autres maintenant, tu sais. Donc, quand Charles n'est pas là un week-end sur deux, c'est notre moment à Nathalie puis à moi de s'organiser quelque chose, partir. Tu sais que ça fait presque 7 mois qu'on est ensemble, on n'a jamais mangé au restaurant encore ensemble. Parce que tout est fermé depuis toujours. Fait que je pense que tu parlais de couples qui se sont découverts en pandémie, là.
Oui.
Nous autres, on était un couple de pandémie, là.
Le slow dating, on voit ça de plus en plus.
Puis tu sais quoi? Je trouve qu'il y a plein d'avantages à ça aussi, dans le sens où tous les moments qu'on passe ensemble, on les passe ensemble. Toi, puis moi, on se regarde dans les yeux, là. Elle, puis moi, on se regarde dans les yeux tout le temps.
Des moments de
qualité. Il n'y a pas de distraction.
Exactement.
Il n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et là, le 7 mois qu'on vient de passer ensemble, là, en temps, en durée.
Équivaut à combien?
À 2-3 ans facile d'un couple qui, normalement, va manger au restaurant, sort avec les boys, un match de hockey, va au gym, tu comprends-tu?
Oui.
Où on passe pas de temps ensemble, mais t'es en couple, mais t'es pas tout le temps ensemble. Alors que là, nous, on est tout le temps ensemble. On déjeune, la fin de semaine, on déjeune, on dîne, on soupe à la maison.
Mm-hmm.
Puis on fait des activités ensemble, puis on reste ensemble, puis on va, tu sais, tout est fermé. Fait que notre première date devait être au restaurant.
Puis finalement, vous avez fait quoi?
C'est moi qui s'est lancé. J'ai fait comme, OK, go, on va manger au restaurant, je t'invite, on y va. On devait y aller le samedi, puis le mercredi, le premier ministre Legault a annoncé la fermeture des restaurants pour la deuxième vague. Fait que je disais à Nathalie, tu vois, même le premier ministre du Québec veut pas qu'on se rencontre. Il a comme scrappé notre première date. Et on s'est vu pour la première fois à peu près un mois plus tard. Je savais qui elle était, elle savait qui j'étais. On s'était déjà croisés dans des restaurants ou dans des événements.
OK.
Mais on s'est jamais parlé. Puis on a commencé à s'écrire sur Instagram l'été passé. Puis Nat avait une photo avec un margarita dans ses mains. J'ai fait comme, il a l'air bon ton margarita, mais c'est moi qui fais les meilleurs au monde. Ben, elle m'a dit, tu m'en fais un quand tu veux.
Wow.
Je lui en fais à toutes les semaines maintenant.
Oh, vous êtes beau. Vous êtes vraiment le fun à suivre.
Ben, t'es fine.
Puis, mais quand tu dis que la qualité des moments est meilleure grâce à la COVID, en quelque sorte, moi, j'organise des blind dates. Il y a des gens qui remplissent une fiche en ligne, qui acceptent que l'on, qu'on les matche avec une personne complètement inconnue.
Pendant la pandémie, là?
Ben, en fait,
tu
non.
Tu le faisais avant?
Je le faisais avant la pandémie. Okay. J'ai cessé au début de la pandémie, en fait, parce que, bon, le contexte...
Mais tu pourrais le faire encore, genre, par FaceTime, mais c'est pas pareil.
Ben, là, ce qu'on fait, en fait, c'est que, moi, les gens allaient en rendez-vous à l'aveugle chez l'un de nos partenaires, tu sais, donc ça se passait pas bien, tout ça, ils prenaient un verre, c'était offert par la maison, puis ils partaient chacun de leur côté. Là, on offre des marches dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Montréal ou des activités. Donc, notamment à Shawinigan, j'ai un couple qui est allé en raquette. T'sais, ils ont fait une activité raquette, tout ça.
Ouais, fun.
Puis.
Sont-ils encore ensemble?
Ben.
On en reparle.
Oui!
On en reparle.
Mais j'ai.
Ça
j'ai...
vous tente, il y a deux sets de raquettes à vendre.
Oui, c'est ça. Mais j'ai un couple qui s'est marié, qui ont un enfant aujourd'hui, qui date parmi mes tout premiers blind dates. Mais durant la COVID, j'ai un couple. J'ai tellement des belles histoires, ça n'a même pas de bon sens. Mais pour en revenir à mon idée initiale du blind date en distanciation à l'extérieur, ce qui est le fun, c'est que la discussion est vraiment. Le contexte, en fait, est vraiment porté sur l'humain, sur l'autre, parce que, comme tu dis, il n'y a pas de distraction.
Exactement.
On n'est pas dans un resto où il y a du bruit, où il y a un serveur qui vient nous déranger. Où... Fait que j'ai l'impression que les célibataires, en ce moment, d'être moins, mais mieux.
Probablement, parce que
tu as
le temps de choisir plus, parce que ça, la vie a ralenti un petit peu. Tu sais, on est moins à gauche puis à droite, puis en train de courir après notre temps. Mais effectivement, c'est un challenge épouvantable. J'ai des gens autour de moi qui sont célibataires, puis je les sens... tanné, écœuré, fatigué aussi parce que c'est très difficile. Ils ont envie de rencontrer un gars, une fille à leur goût, d'aller
juste manger au restaurant. On s'entend que c'est un peu cow-boy, là. D'être quelqu'un le soir en ce moment avec un couvre-feu. Nous, à Québec, c'est 20h. Ici, à Montréal, c'est...
Là, c'est revenu là, à 21h30 depuis cette semaine. Là.
Bon.
Hey,
gang de chanceux!
On pense à coucher à 10h.
Tu sais, imagine, tu finis de travailler vers 4, 5, 6h, tu rencontres quelqu'un, il est 7h.
Ouais.
C'est
quelque chose. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens. Je suis pas un dateur, moi. Tu sais, puis les peu de fois où j'ai été célibataire dans ma vie, j'avais pas envie d'embarquer dans cette game-là.
Je suis la pire quand on est à la chaussée.
Ça me tuait complètement. Tu sais, je deviens mal à l'aise. Je suis pas bien, tout ça. Et avec Nat, je l'ai senti tout de suite qu'il y avait une connexion. Je savais qu'il y avait quelque chose, puis je l'ai senti tout de suite. Puis j'ai été chanceux parce qu'on est ensemble maintenant, puis je vais passer le reste de ma vie avec elle, je le sais, tu sais. Mais ça doit être épouvantable. Puis j'ai une pensée pour ces gens-là qui ont juste hâte de sortir, d'aller manger sur une terrasse avec une chum de fille, puis croiser deux beaux gars. Fait, hey, on se parle dessus, puis il se passe quelque chose, tu sais.
Oui.
Je les comprends, puis je vous le souhaite que ça se règle bientôt.
Parce que déjà, je trouvais qu'il y avait de moins en moins d'opportunités pour les gens, avec les discothèques qui n'existent plus vraiment.
Juste les restos, juste un 5 à 7 dans un restaurant où tu y vas avec deux chums de filles, puis il y a un beau gars là, puis tu fais comme, OK, j'y vais, tu sais.
Vraiment.
Puis le sablon, on arrive, oh, ouais, là, tu viens de bord, surtout.
Mais est-ce que tes plus vieux ont commencé à avoir des chums de longe? J'imagine que
100%. Puis c'est le fun de les voir passer à la maison. C'est pas des courageux, ni Mathieu, ni Sophie. Donc, de les voir évoluer avec les gens qu'ils rencontrent, je trouve ça beau.
De quelle façon est-ce qu'ils rencontrent?
C'est beaucoup d'amis. En fait, c'est dans... Tu vois que j'ai envie de réfléchir, là. Dans tous les cas, ça a toujours été des amis communs qui faisaient en sorte qu'ils se rencontraient.
Dans un
party au parc, dans une soirée entre amis, des amis de travail, des fois, qui connaissent quelqu'un, puis qui invitent d'autres amis qui viennent s'ajouter.
On a une référence dans ce temps-là. Mais ce que je trouve triste de cette génération-là, c'est que souvent, ils se retrouvent dans un endroit public où là, il y a peut-être quelqu'un qui plaît ou quoi que ce soit, puis plutôt que d'aller leur parler... Ils vont tout de suite aller l'ajouter sur un réseau social comme Instagram.
Ouais.
Ils vont entrer en contact.
Mais tu trouves ça une valeur, mais en même temps, c'est leur génération, eux autres.
Oui.
Tu sais, moi, je me rappelle au début, quand j'étais petit cul, on se cachait dans le cabanon chez mon chum Steve Tanguy, puis c'est lui qui appelait les girls de l'école pour leur demander s'ils voulaient sortir avec moi. Tu comprends-tu? Fait qu'on n'est plus là. C'est plus ça du tout.
Ça évolue.
Mais je comprends ce que tu veux dire parce que le contact est moins direct. Mais il n'y aura jamais rien qui va battre les yeux dans les yeux, puis se parler, puis se poser des questions, puis répondre. Le texto, je trouve que c'est une communication qui est pratique, mais c'est une communication qui est froide. Quand il faut que tu mettes des petits bonhommes qu'on appelle les emojis pour pour faire comprendre les émotions que tu vis actuellement, il n'y a rien comme dire à quelqu'un dans les yeux, tu sais quoi? Ça me fait du bien ce qu'on a en ce moment, puis je suis heureux avec toi. Au lieu de faire un thumbs up comme ça, tu sais, j'aime mieux attendre, j'aime mieux que ma blonde me dise, j'aime ça quand elle m'envoie un cœur par texto, mais quand j'entends le son de sa voix dans le creux de mon oreille, qui me dit, hey Ben, je t'aime. À chaque fois, ça me renverse. C'est comme, ah, oh, merci, tu comprends-tu? Ce son-là, pour moi, c'est de la musique à chaque fois. Fait que je comprends le côté pratique du texto. Je comprends que la génération d'aujourd'hui, ils ont une nouvelle façon de faire, puis ça leur appartient, puis c'est de leur temps, tu sais. Mais appelez-moi vieux jeu, si vous voulez, une vraie discussion. Combien de fois par semaine vous prenez votre téléphone pour parler avec quelqu'un? Mais vraiment appeler, le composer le numéro. Pis...
Moi, je suis comme ça.
Ben, moi aussi. Des fois, j'ai des messages.
Oh, mon Dieu. Vocal.
Il m'appelle. Pourquoi il m'appelle? Mais pour te parler, il répond. Oui. Oh non, il va me texter. Non, réponds à ton... Tu comprends? Je suis encore là-dedans, puis je trouve que ça, y a rien qui peut battre une vraie discussion, des vrais sentiments.
Ouais.
Et vraiment exprimer par la voix, en communiquant, en ayant une vraie discussion, ce que tu ressens, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Il y a rien de plus beau que ça, je pense. Et de plus franc et de plus direct. Ouais.
Puis là, je fais encore du coq à l'âne, parce que...
Hey, je te l'ai dit micro... tantôt, moi, je te suis.
Parfait. Hors micro, on parlait... on parlait du 4-2-2-1.
Ah, mon Dieu!
4-2-1.
Le 4-2-1.
J'aimerais que tu me parles de ça, puis j'ai un autre truc.
Mon 4-2-1 a évolué parce que maintenant, c'est 5-2-1. Parce que oui. Nathalie a deux enfants, j'en ai trois. Donc, il y a 5 enfants, plus les deux adultes, on est 7. Right? Bon, le 7-2-1, dans mon cas à moi, et ça s'applique à toutes les familles du Québec, notre 7-2-1, nous autres, c'est les enfants, donc la famille, les 7. Mais avant d'être des parents d'enfants, même si je ne suis pas le père, je suis le beau-père quand même de Emma et de Thomas, comme Nathalie est la belle-mère maintenant de Mathieu, Sophie et Charles, avant d'être ça, on est un couple aussi. Et pour être heureux en famille, dans notre 7, faire des activités, il faut qu'on se retrouve ensemble. En fin de semaine, on s'en va dans un petit manoir, juste nos deux, parce qu'on a ce privilège-là de pouvoir partir en fin de semaine. Donc, on va passer du temps de qualité dans notre 2. Fait quand on revient en famille dans notre 7 après, là, on est super de bonne humeur, puis on a passé ça, on a passé un week-end ensemble à boire des bulles, puis à manger tard, puis à faire l'amour, puis à pas se casser la tête parce qu'il y a un enfant qui se lève ou peu importe, tu comprends?
Oui.
Fait qu'on est heureux dans notre 7. Puis avant d'être deux, moi, j'étais tout seul, puis Nathalie aussi, faut qu'elle aille ses moments à elle avec ses chums de filles, qu'elle aille magasiner avec une amie, qu'elle aille prendre un verre sur une terrasse, qu'elle aille passer un week-end avec ses chums de filles à Tremblant. Parce que quand elle revient après ça dans son 2, donc en couple avec moi, elle est contente, elle a eu du bon temps avec ses chums de filles, puis après ça, on rembarque dans notre set, puis on fonctionne, puis ça va super bien. Il y a des couples qui se refusent ça. Il y a des blondes puis des chums qui veulent pas que l'autre aille passer un week-end ou aille jouer au golf avec ses chums de filles ou avec ses chums de gars. Fait que t'es toujours frustré un petit peu. Fait que quand t'es dans ton 2, t'es pas content parce que tu fais comme, hey, j'aurais pas avoir une soirée au hockey avec les boys, j'aurais pas avoir une soirée de cinéma avec ma meilleure amie de fille, puis aller prendre un verre après. Mais mon chum, il voulait pas. Fait qu'elle reste dans son 2, puis elle est pas de bonne humeur, puis elle est pas contente. Fait qu'il y a de la tension ici, puis après ça, la gestion du set est pas facile. Fait que je pense que si on n'oublie pas qu'est-ce qu'on était avant d'être en famille, un couple, et avant un couple, un individu qui aime des choses, puis qui aime s'amuser, puis qui aime faire du sport ou peu importe. C'est une question d'équilibre, c'est juste ça. Fait, faut qu'on se laisse respirer en couple par rapport à la famille et aussi comme chum, comme blonde, avec nos amis aussi, pour être fort dans notre 2 puis être meilleur dans notre 7.
Exact. Le but de tout ça, c'est d'être bien.
C'est juste d'être bien. Mais on ne s'accorde pas toujours ce temps-là et ce droit-là de le faire, puis on devrait le faire parce que en le faisant, au lieu d'être, mettons, les gars qui ne veulent pas que leur blonde sorte avec le chum de fille, au lieu d'être comme ça, là, laisse-la aller. Parce que quand elle va revenir, elle va être encore plus heureuse, puis elle va t'aimer encore plus, puis ça va être encore plus fun.
Oui.
Puis elle va peut-être avoir le goût de te sauter, mais qu'elle revienne, parce que mon Dieu, qu'elle a passé une belle soirée, elle s'est sentie belle, elle s'est mise belle, elle a eu une belle soirée, elle revient, elle est contente que tu y aies donné je veux pas dire cette permission-là, mais t'as dit, go mon amour, vas-y, va t'amuser, elle revient, elle a envie de toi, vous passez une... Tu comprends-tu?
Absolument.
C'est juste de créer une énergie qui est un vortex, le fun à la maison.
Exactement.
C'est juste ça.
Puis je trouve ça le fun aussi que quand tu partages vos escapades et tout ça, c'est tellement, ça donne des bonnes idées de sortie, puis d'endroits.
Moi, je suis pas gêné d'aimer. Puis je suis pas gêné de dire que j'aime cette fille-là. Puis je suis pas gêné de dire que je la trouve extraordinaire. Puis je suis pas gêné. Pourquoi je serais gêné? Pourquoi ça me dérange pas de présenter ma nouvelle voiture, mais de parler de ma relation de couple puis de dire, moi, je suis en amour avec cette fille-là, puis je la trouve belle, puis je la trouve extraordinaire.
C'est inspirant.
Puis elle se dit, oh mon Dieu, que c'est lourd. Non, c'est beau. Mais à 95%, je reçois des messages de gens qui me disent, hey, tu sais quoi, vous nous faites du bien.
Mais oui, mais vraiment, ça donne de l'espoir. C'est comme, ben, wow, c'est ça, okay, tu sais, mais.
Puis que j'aille 25 followers sur Instagram, ou peu importe le nombre, s'il y a une personne qui fait, hey, tu sais quoi, ça me motive, puis ça me donne le goût de rencontrer un gars, une fille, puis avoir du plaisir, puis d'avoir ce genre de relation, puis de connexion.
Ouais.
Good. C'est juste du bonheur. Moi, j'ai pas de misère avec le bonheur, au contraire. Si je peux en pitcher ses murs un peu partout, je vais le faire. Et je serai jamais gêné de dire hey, elle, c'est ma blonde, je la trouve hot, je la trouve sexy, j'ai envie d'elle, j'ai envie de voyager avec elle, j'ai des projets avec elle, puis ça, ouais. ça va être ça, tu comprends-tu? Je me cacherai jamais pour dire que j'aime ma blonde.
Ouais.
Au contraire, je veux que tout le monde le sache.
Absolument. Puis c'est ça, puis vous me donnez des bonnes idées de sortie, puis d'activités à faire à deux, puis ça, je trouve ça hyper le fun.
Tu sais, là, on est bien des fois à la maison à cotonouater, là. Je mets de la musique.
Oui.
On se fait deux cafés le matin, là. Puis on s'écrase moment. Dans le fauteuil, elle check son téléphone, check mon téléphone, mais on est connecté.
Mm.
On se parle pas. Des fois, elle va fermer son téléphone, elle va juste se coucher ici sur le coin de mon épaule. Elle s'endort, elle s'assoupit 15-20 minutes. Ce moment-là, pour moi, est aussi le fun que de partir un week-end quelque part à l'extérieur de la maison. Tu comprends-tu?
Oui.
Sûr qu'on a hâte de voyager. J'ai juste hâte d'avoir le cul dans le sable à Punta Cana. Tu comprends-tu? Oui. Juste le goût de partir.
Mais c'est ça, mais je trouve que vous réussissez bien à...
Ben, il faut s'adapter. En attendant, exact. Pour l'instant, on a le droit à ça. Comme on peut maximiser le temps qu'on a actuellement, c'est en faisant ci, c'est en faisant ça. Nat et moi, on aime les deux la bonne bouffe. Moi, j'aime ça faire à manger. Je fais à manger correct. Fait que j'aime ça pitcher des affaires.
Bien? Puis, hein? Est-ce qu'elle aussi aime cuisiner?
Oui, 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 beaucoup. Ah, mais elle me laisse faire parce que je m'en sors quand même pas pire, puis j'aime ça. Puis... Mais ces moments-là, là, des fois, je l'assois à l'îlot, puis elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, tu peux t'asseoir là, puis me jaser. Puis on se regarde, puis je verse du vin, puis on jase, puis c'est le fun. Puis je trouve que c'est important de miser sur soi-même. Je pense que c'est important de... Surtout dans un temps... Tu sais, la COVID nous a ralenti beaucoup, mais je trouve qu'elle m'a aussi groundé sur ce que j'aime dans la vie. D'apprécier davantage les moments que j'aime, les trucs que j'aime faire autour de la maison qui me font du bien. Je trouve que ça, ces moments-là, j'ai su les maximiser. Puis je trouve que, comme individu, moi, je suis assez capable de... Je suis bon pour m'adapter à une situation. On n'a pas le choix. On se l'est fait sacrer d'un dent, c'est comme ça, mais je pourrais
on focus
passer...
sur ce qu'on a de beau.
Ouais, positif, je pourrais passer mon temps à chialer puis être en crise de ce qui arrive. OK, tu peux être en maudit une fois de temps en temps. Moi aussi, écoute, j'ai vu ma mère deux fois en un an et demi, là. Mm. Je m'ennuie profondément. J'ai vu mon frère deux fois en un an et demi, je m'ennuie profondément. Chez nous, la maison, c'est là où les gros soupers de gang se font. Ma gang vient, ils débarquent, ça amène des steaks, de la saucisse, on parle au barbecue.
Les bulles, la bulle.
Il y a des bulles tout le temps, ça prend des bulles. Mais ma bulle, mais des bulles de aussi.
Oui.
Mais tout ça me manque aussi. Mais oui. Je peux pas l'avoir. Fait que pourquoi je serais aigri par rapport à ça puis je scraperais tout ce que je peux créer comme moment de bonheur actuellement? Ça va pas arriver. Comment on peut maximiser le temps de qualité qu'on passe autant en couple qu'en famille actuellement sans savoir ce qu'on peut faire? Puis ce qu'on peut faire, ben, il y a plein de possibilités. Ça.
Absolument.
Ouais.
Ouais. Puis, bon, encore une fois, par rapport, tantôt, je t'ai entendu parler à la radio de ton papa.
Oui.
Ton papa qui est décédé quand même quand t'étais jeune.
Il est décédé, il avait 57.
OK.
Fait que moi, j'avais 31 ans, je pense, quand père est décédé.
Puis, ton père a fait un infarctus, en fait, à 40 ans.
Oui.
Il est décédé et revenu.
Ouais.
De ce qu'il croit, en fait.
Uh-huh. Il a fait un arrêt cardiaque. Mon père a eu son premier infarctus. Il a été traité. Et à un moment donné, il y a eu un genre d'épisode d'arythmie cardiaque quelques années plus tard. Il est rentré à l'hôpital. Et un soir, ça n'allait pas du tout. Et son cœur s'est mis à battre super vite, puis en hyperbattement, je ne sais pas c'est quoi le bon terme, mais il y avait une douleur incroyable à la poitrine, puis il était sur les moniteurs, c'est une question de temps avec les gens viennent le voir vite, mais ça a duré quelques secondes, puis tu sais la petite table qu'ils ont dans les hôpitaux quand tu es dans ton lit et que tu peux glisser pour pouvoir manger, il l'a mis de côté, il a mis un oreiller par-dessus, puis il s'est comme assoupi un peu, si tu veux, puis il a comme fermé ses yeux, puis en se mettant dans cette position-là, ça lui faisait moins mal à sa poitrine. Et là, c'est une question de seconde, comme je te dis, parce que les autres, ils savent, puis ils s'en viennent le voir, parce que sur les moniteurs, ils voient bien que dans la chambre 48, il y a un gars qui est en détresse. Hein. Et son cœur a arrêté à ce moment-là. Et il est comme mort, mais on ne sait pas trop, tu sais.
Mm-hmm.
Ils l'ont réanimé, ils l'ont ramené, mais ils ont beaucoup parlé. Puis quand il est revenu à la maison, un couple de jours plus tard, il nous a raconté qu'est-ce qu'il avait vécu. Et il s'est senti mourir, il s'est senti partir. Il y a eu un genre de calme qui s'est installé autour de lui. Il n'y avait plus mal. Il y avait un genre de sentiment de bien-être dans ce qui était. Puis le fameux tunnel avec de la lumière, il a vu quelque chose qui ressemblait à ça. T'sais. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que c'était juste un passage à vide? Son cœur a arrêté un petit peu, mais tu sais, ils l'ont réanimé tout de suite. Fait que je suis pas médecin, je peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé. La durée, est-ce que ça joue à travers les différents termes qu'on peut avoir pour ce moment-là de sa vie ou de sa mort, je sais pas. Mais il dit, le bien-être que j'ai ressenti à ce moment-là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Puis père est décédé après ça, il avait 57 ans, il allait avoir 58. C'est jeune en maudit pour mourir. T'sais, moi, ça me choque à chaque fois que j'en parle. Il manque régulièrement, il manque quotidiennement. Fait que c'est sûr que j'ai jamais rencontré Sophie, j'ai jamais rencontré Charles, évidemment. J'aurais aimé ça qu'il rencontre Jenna dans le temps parce qu'il avait rencontré Sonia, puis il l'aurait aimé aussi. Puis j'aurais aimé ça qu'il rencontre ma belle Nat maintenant parce que je sais à quel point il l'aurait aimé, puis il l'aurait trouvé belle, puis il l'aurait agacée, puis elle aurait eu un bon contact avec. Puis mon père, c'est un bon vivant, il aimait ça boire un bon verre de vin. Nat, elle aime ça. Je nous vois là, des fois avec ma mère, mon frère, puis une belle grosse table, puis les enfants et tout ça. Fait que ça a été un moment difficile dans ma vie quand père est décédé. Ça m'a pris plusieurs années à m'en remettre. C'est comme si le phare de ma vie s'était éteint. Puis que je dérivais parce que j'avais plus de référence, tu sais. Ça a toujours été le gars que j'appelais quand il se passait quelque chose de le fun ou de moins le fun dans ma vie. C'était le premier appel que je faisais proche. tout le temps. Wow. Puis pendant des années encore, j'appelais. Des fois, j'appelais à la maison pour y parler. Quand il se passait de quoi, puis je faisais comme, ben non, il est pas là. Puis je raccrochais, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a été tough. Puis avant qu'il meure, parce qu'on avait souvent des discussions, papa et moi, il était super fier du travail que je faisais. Moi, j'étais fier, mais mon père était flic, comme petit gars. C'est comme, wow, ton père, c'est une police. Il arrive à la maison, puis il y a un gun. Oh my God. Puis mon père était garde du corps de premier ministre aussi pendant plusieurs années. Il était garde du corps de M. Lévesque, René Lévesque, pendant 11 ou 12 ans, je pense. Moi, j'ai mangé des Foggio sur le coin de la table à maison avec René Lévesque, qui était de passage à la maison avec mon père. Parce qu'il décidait, il était à Québec, puis il disait, OK, Camille, on s'en va à Montréal. Puis mon père dit, ouais, mais là, combien de temps? Il dit, 2 jours, je sais pas. Mon père disait, ouais, mais j'ai rien, là. On va à la maison chercher du stock. Fait que mon père arrivait avec la limousine à la maison au lac Saint-Charles, en banlieue de Québec, avec René Lévesque en arrière qui fumait, puis il sortait de la voiture, puis il rentrait dans la maison. Puis mon frère Jérôme, puis moi, t'es en pyjama, ma mère, ça s'apprêtait à aller nous coucher. On savait pas c'était qui, là. On pensait que c'était le boss à notre père, tu sais, puis on savait qu'il le protégeait, mais. Fait que mon père allait se faire une valise en haut. On mangeait des Foggio avec un verre de lait avec M. Lévesque, premier ministre du Québec, qui nous fumait ça dans la face parce que c'était de même dans ces années-là. Fait qu'on réalisait pas trop ce qui se passait. Mais tout ça pour te dire que. Toujours été fier du métier de mon père, toujours été fier de ce qu'il faisait. Il était très fier de moi aussi. J'ai gagné mon premier trophée Metro Star dans le temps artiste qu'on appelle aujourd'hui, longtemps après son décès. J'ai aimé ça qu'il vive avec moi. J'ai fait de la course automobile pendant plusieurs années. J'ai gagné une course au Grand Prix du Canada dans une autre catégorie que la Formule 1, mais quand même durant le Grand Prix du Canada.
Tu fais de la course automobile?
J'en ai fait pendant 12 ans.
Wow!
Puis Pat trippait là-dessus. S'il avait su qu'un jour j'allais faire la course automobile, il aurait capoté, il aurait retardé sa mort d'une couple d'années parce qu'il aurait voulu être là, tu comprends? Fait que tout ça pour te dire que quand Pat était là, je lui disais tout le temps, tu sais, Pat, moi je veux profiter de la vie, puis il me disait oui, puis continue, puis c'est important de le faire parce que jusqu'à preuve du contraire, on en a juste une. Puis c'est lui qui me disait ça souvent, puis je m'en sers encore souvent, tu sais. Fait que pour lui, c'était important ça. Fait que quand il est décédé, on s'était toujours dit, on en a juste une à vivre jusqu'à preuve du contraire, on peut-tu maximiser le temps qu'on a ici. Puis, fait que depuis son décès, ça a fait exposant 1 million. Tu sais, là, je suis content d'être ici. Là. Ce qu'on vit là en ce moment, je suis content d'être avec vous autres aujourd'hui. Puis c'est le fun. Je suis ici maintenant, puis j'en profite. Je vais aller retrouver ma blonde tantôt. Je vais passer un week-end avec elle. Je vais être avec les enfants. Je vais peut-être aller voir Sophie à sa pratique de flag football dans une couple de jours. Je vais savourer ce moment-là. Tu sais, fait que tout ça est très important pour moi.
Et pour toi, vieillir, c'est un privilège. C'est pas une peur, c'est pas
de
vieillir.
Oh non, moi, je suis très à l'aise avec le fait d'avoir 50 ans cet été. Mm. Je suis très à l'aise avec la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant. C'est la mienne. Elle est pas parfaite, mais c'est la mienne. C'est moi qui a sorti le crayon de couleur puis qui a mis ces couleurs-là dedans, tu comprends? Fait que j'assume pleinement tout ce que j'ai toujours fait. Je suis heureux, je suis bien dans ma peau, je suis en forme. Je suis dans une bonne période de ma vie. Fait que non, pour répondre à ta question, vieillir, pour moi, c'est pas un problème. Je le vois même comme un avantage. Je suis moins angoissé, moins stressé qu'avant sur certaines affaires. Je suis inatteignable maintenant sur certains autres trucs qui venaient me gosser, mettons, avant. Ça me
glisse
sur le dos. Choisis mes combats. J'ai réduit un peu le cercle des gens autour de moi aussi beaucoup.
Ça fait du bien, hein?
Ça fait du bien parce que des vrais amis, on n'en a pas beaucoup. Dans des situations comme ce qu'on vient de vivre dans la dernière année et demie, les vrais sont là tout le temps. Les autres qui
étaient des... La COVID a divisé beaucoup de gens. Je ne sais pas de ton côté à toi. Est-ce que les opinions ont fait en sorte que...
Ah, ben...
Plus ou moins, ou...
Je suis rendu à l'âge où je suis rendu aussi que... Moi, on a tous droit à notre opinion. Moi, quand ça devient illogique, tu peux me perdre assez facilement. Tu sais, tu peux me dire pendant 3 jours que le jaset est écrit, mettons, en jaune. C'est correct, mais c'est en noir. Fait que même si tu m'obstines pendant 4 jours, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Pense que c'est jaune, ça me dérange pas. Tu comprends? Fait que quand ça devient illogique pour moi, souvent, je vais donner moins d'attention. Mon temps est précieux. Je te dis ça sans aucune prétention, mais mon temps est précieux. Oui. Je ne veux plus l'accorder à n'importe qui. J'aime mieux miser sur les gens qui sont importants pour moi. J'ai une garde rapprochée qui est très importante pour moi. C'est des gens que j'aime, que je respecte et pour qui je serai toujours là. Je suis très loyal dans la vie, moi. Fait que ma loyauté, ça a été un combat
Merci
aussi.
Merci d'être là, je te l'étudie, non?
Mais ma loyauté pour moi a été un conflit avec moi-même parce que justement, à cause de ma loyauté, il y a des gens que je vois un peu moins maintenant.
Étais-tu du genre à toujours dire oui? D'avoir des difficultés à dire non?
Ça, c'est un autre dossier, ça, parce que dans ma vie, longtemps, j'ai dit oui pour faire plaisir ou pour installer une carrière ou, tu sais, peu importe. J'ai commencé à apprendre à dire non à un moment donné. Et je l'assumais pas, tu sais, j'étais tout le temps mal à l'aise. Non, mais tu le dis sous bout des lèvres, ou tu veux dire non, mais tu dis oui finalement parce que.
Mais ça, en vieillissant, je pense qu'on.
Mais là, maintenant, je dis non et je l'assume pleinement. Ouais. Je me dis que si tu n'acceptes pas mon non et si tu ne comprends pas les raisons pour lesquelles je te dis non, c'est correct, ça t'appartient. Mais moi, je suis à l'aise avec le fait que je t'ai dit non pour un projet, pour une invitation, pour un lancement, pour une collaboration avec quelque chose. Mm. Si je le sens pas, j'aime mieux dire non que de le faire ou d'y aller puis que ça me tente pas. Mm. Chose que je faisais avant et chose que je ne fais plus maintenant parce que j'ai plus le temps pour ça. Ouais.
Ouais.
Je me respecte beaucoup à travers ça.
Merci beaucoup, Benoît, d'être ici aujourd'hui et j'ai des cadeaux pour toi, en fait.
Pardon?
Oui.
Est-ce que c'est Noël avant le temps?
Mes partenaires sont incroyables et quand j'ai dit que c'était Benoît aujourd'hui, les gars de Firebonds.
Mais là, je les connais super bien.
Donc, ben oui, c'est ce qu'ils m'ont
c'est
dit.
C'est Frank et PO.
Frank me dit, Frank et PO, effectivement, et Frank me dit, ah, OK, je veux que tu lui donnes ça. Il n'a pas cette boîte-là.
J'ai
donc,
pas eu cette boîte-là. C'est des nouveaux produits.
Comme on est en temps de COVID, je vais te le donner par la
Moi, j'ai goûté
suite,
aux deux maillots qui sont extraordinaires. Sriracha bacon, ma blonde, elle capote sur celle au bacon. Le ketchup va être bon, puis la moutarde.
Oui, donc des produits disponibles.
Avec le président Barney, qui est tout le temps là sur les étiquettes.
Toujours.
C'est lui le prez de la compagnie.
Donc, Firebond.
Défine, merci, je vais le prendre certain.
Il y a ça pour toi.
Tu es en train de t'inviter à un barbecue avec Nat puis moi quelque part.
Oui, c'est ça, c'est subtil comme demande.
Je savais. Il mange juste les steaks.
Également, les boutiques La Vue qui t'offrent une paire de lunettes verres et montures ou fumées.
Pardon?
Ben oui, écoute, c'est des partenaires en or que j'ai qui gâtent tous mes invités membres. Donc, mes membres de l'application GoCEO et de son
Mais c'est donc bien fin, merci. C'était pas nécessaire. Hein?
Oui, non, mais écoute, je suis super contente de pouvoir offrir tous ces cadeaux-là. Et un bracelet offert par Millie Bijoux, qui est une entreprise de bijoux québécoise qui fait ses 10 ans. Les filles sont incroyables. Donc,
c'est
vraiment jasant avec Émilie qui m'a dit « Ah, oh ouais, Benoît Gagnon, j'aimerais vraiment ça lui offrir un cadeau. » Donc, écoute...
Je suis touchée, merci, c'est super.
T'es gâté comme ça, puis un faux loop pour mettre après ton téléphone parce que c'est toujours pratique
voyons donc.
Pour pas l'échapper.
Je l'ai dit tantôt, c'est Noël avant le temps. C'était pas nécessaire.
C'est Noël avant le temps. Donc, Benoît, je te remercie beaucoup d'avoir passé autant de temps avec moi, d'avoir...
C'est déjà terminé?
De ton temps précieux. Ben oui, écoute, ça fait... je sais pas trop combien de temps...
55 minutes
quand même déjà. Je fais à peu près 40 minutes là. Écoute,
c'est agréable. Merci pour l'invitation.
Ben, merci beaucoup.
Et bravo pour ce que tu fais. J'aime ça. Moi, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de filles. Dans mes entourages, il y a toujours des filles parce que je trouve que vous avez une énergie qui est différente de celle des gars. Vous avez cette force-là en dedans qui nous amène, nous autres comme gars, à nous dépasser souvent. Puis quand je vois des filles comme toi en affaires qui partent des choses et qui mettent les heures derrière tout ça pour que ça marche, je trouve ça beau. Fait que je te dis bravo pour ce que tu fais.
Merci.
Puis lâche pas. Ça va super
bien. Gentil. Merci beaucoup. Vraiment.
Fait que je sois fin. Elle vient de me donner des cadeaux.
Non, mais pour moi, j'étais hyper stressée avant de m'en venir, puis tu m'as...
Tu étais stressée parce qu'on jase ensemble?
Ben non, mais j'étais stressée. Mon problème, c'est que je me prévois des questions, puis je les suis pas. Fait que
ouais. Combien t'en as posé là-dessus, mettons?
Mais
3 sur 12, mettons?
Oui, à peu près. Oui. Mais en dehors, je te parlerai.
Tu me parleras tantôt, c'est correct. Merci pour la belle jasette, c'était le fun.
Merci beaucoup, toujours agréable. Merci.
C'est le fun, ça.